Hier, nous entendions Ézéchiel dévorer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il est abasourdi par les hurlements de Dieu. Le texte hébreu dit « Il cria à mes oreilles d'une voix forte ». Alors, pour expliquer que... Que Dieu hurle, je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux. Et c'est impressionnant de voir que ce prophète qui a eu une mission de parler maintenant est complètement hypnotisé par Dieu. Quand il y a trop de bruit, souvent le cerveau sature, il n'est plus capable de rien faire. Il est un peu hagard et on a l'impression que c'est ce qui va arriver en fait. Dieu met Ézéchiel dans un état où il soit à la fois terrifié et à la fois tout à fait incapable de bouger. Et alors il est question de Jérusalem, il est question d'armes de mort selon les traductions. Il est dit que personne n'est épargné. Or, évidemment, ça nous parle un peu aussi d'Israël et de ce qui peut s'y passer ces jours-ci, puisque ça ne va pas très bien, moins qu'on puisse dire. Il nous parle de guerre. Et alors, nos traductions nous disent qu'un homme est envoyé, qui figure le Christ, et qui doit marquer d'un signe de croix. Alors, au front, il y a écrit un tau en hébreu, c'est tav. Et donc ce tau figure là aussi le signe de croix, puisque sur la croix, il n'y a pas de... C'est un T, la croix, hein, il n'y a pas de débordement au-dessus. C'est l'écritoire qui a donné notre croix chrétienne actuelle. Mais il n'y a pas de débordement. Donc ce signe du tau, qui est finalement la marque du Christ à venir. Et cela me fait penser à une prophétie du 9e siècle. La prophétie, on sait que c'est vrai quand ça s'accomplit, hein. Il y a une prophétie au 9e siècle qui disait « Lorsque l'État d'Israël sera encerclé, ils se convertiront. » Alors ça n'a eu de sens qu'à partir de 1948 où il y a eu un État d'Israël. Bon, on verra bien si ça s'accomplira ou pas. En tout cas, ils sont sérieusement encerclés. Voilà, je note que le verset 8 dans le chapitre 9e d'Ézéchiel n'a pas été lu. Et le verset 8e, c'est Ézéchiel qui tombe la face contre terre et qui intercède et qui dit « Mais Seigneur, jusqu'à quand vas-tu agir ainsi? Et est-ce que ta colère doit se répandre ?» Et Dieu lui répond « Oui ». Et si j'en parle, c'est parce que c'est un peu la question de l'Évangile, quoi. « Si ton frère a commis un péché ». Alors c'est quoi péché? Je crois qu'aujourd'hui c'est assez connu, le verbe péché en grec se dit amartano, en hébreu ou en arabe chata, et signifie dans les deux langues manquer la cible, manquer le but. Donc péché c'est se tromper de direction. Ça n'est pas tant manquer à une règle. La règle c'est comme le panneau de circulation, il indique ce qu'il faut faire. Il indique la direction, il est sur la route, mais il n'est pas la route lui-même. Il faut faire attention de ne pas prendre le panneau pour la destination. Sinon, on se plante. Hein. Donc voilà, bon, c'est une parenthèse. Mais donc, si ton frère se trompe de chemin, donc il faut aller vers lui. Bon, il n'y a pas à commenter. Hein. Matthieu nous dit ce qu'il faut faire, on y va une fois, on y va à plusieurs. Bon. Et puis ensuite, on le considère comme pour les juifs de l'époque, c'était un excommunié. Alors, quelle attitude a-t-on vis-à-vis d'un excommunié? Je trouve très intéressant d'éclairer ça par le magistère du pape François, qui nous dit que tout le monde doit être reçu. Nous sommes tous sortis des mains de Dieu, fratelli tutti. Évidemment, ça ne plaît pas toujours parce que c'est concret, quoi. Le magistère du pape François a ceci de dérangeant, qu'il dérange et qu'il il pousse à bouger. Tandis que les enseignements, par exemple, d'un pape Benoît, qui était tout à fait remarquable et pouvait être utilisé simplement pour nourrir son intelligence et ne pas trop s'inquiéter. Je ne dis pas que c'était ce qui s'est passé. Je dis que beaucoup pouvaient se dire, voilà, c'est très beau, c'est très bien, oui, et tu fais quoi avec? Oh, bon, voilà. Le pape François nous invite à bouger, c'est absolument clair, avec son vocabulaire, son style, ses manières de faire. Et ceci dit, je voudrais noter ici sur la question du frère, la question du pardon aussi, hein. Et il est dit, Jésus dit, tout ce que vous liez, tout ce que vous déliez. Est-ce que nous pardonnons aux autres ce qu'ils nous font? Il arrive que la grâce soit mise en échec en nous, parce que nous gardons une amertume, peut-être très ancienne. Parfois nous la faisons payer à ceux qui nous entourent, du reste. Hein. On m'a marché sur les pieds quand j'avais 5 ans, donc quoi? Voilà, l'importance de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Vous connaissez l'apophtegme des pères du désert, peut-être. Un jeune qui était au désert n'arrivait pas à pardonner à son frère qui lui avait fait je ne sais pas quoi. Et du coup, il va voir un abat et lui dit, voilà, père, je ne peux pas pardonner à mon frère. Et alors, l'abat lui dit, très bien, veux-tu que nous prions ensemble? Nous allons dire la prière du Seigneur. Donc, ils disent le Notre Père. Et pardonne-nous nos offenses, ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas non plus à ceux qui nous ont offensés, dit l'ancien. Et alors le jeune fait une métanie, s'en va, il a compris. Je pense que quand on ne veut pas pardonner, il faut dire le Notre Père à l'envers. Il faut dire en face de Dieu, ne me pardonne pas mes péchés comme je ne les pardonne pas. Je crois que ça produit en l'âme quelque chose d'intéressant. Et on mesure un peu ce qu'on est en train de dire. Bien. Donc le pardon. Attention, je détourne un peu le sens, mais de ne pas lier les autres sur terre avec nos impossibilités. Nous sommes porteurs de vie et pas de mort. Soyons-en conscients. Et puis, bon, je vais vite, il faudrait développer, bien sûr, parce que c'est important, hein, mais... Je vais vite, Jésus aborde la prière. Je voudrais m'arrêter un peu plus là-dessus. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Ils l'obtiendront. Alors ça, c'est quand même un sujet de scandale assez récurrent. Hein. Donc il ne faut surtout pas passer. Quand on a un scandale, il faut s'arrêter. On n'a pas le droit, nous, catholiques, oui, non, j'en parlerai une autre fois. Non, 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 tu sais pas quoi dire, c'est scandaleux, tu t'arrêtes. Et voilà, et cette maman qui a 3 enfants, qui a 30 ans, qui vient d'avoir son 4e et qui a un cancer, et toute la famille a prié, et elle est au stade 4. Alors il se passe quoi là? Parce qu'il y a quand même écrit, si deux d'entre vous, et là ils sont beaucoup plus de deux, il y a toute une famille, hein, se mettent d'accord pour demander, ils l'obtiendront. Et on ne l'a pas obtenu. C'est quoi ça? Alors évidemment, vous pouvez dire, ben oui, ce jour-là, Matthieu aurait mieux fait de ne pas se lever, rester couché, plutôt d'écrire ça. Hein. Ouais, sauf que c'est écrit et c'est révélé. Alors on fait comment? Alors on va dire, ben on s'y prend mal. On n'a pas respecté le cadre. On va reprier, on va dire une autre neuvaine, et puis celle-là marche mieux. Et ça ne marche toujours pas. Ah bon, alors Jésus ne veut pas guérir. Faut mettre des mots cash. Hein. Jésus ne veut pas guérir, puisqu'il ne guérit pas. Souvenez-vous du lépreux. Hein. Si tu veux, tu peux me guérir. Donc si tu ne le fais pas, c'est que tu ne veux pas. Alors on fait quoi avec ça? C'est impossible que Jésus ne veuille pas guérir. C'est son nom. Yeshua, Dieu sauve. C'est pas possible. Alors on entre dans la révolte. On entre dans la révolte, ce que je disais tout à l'heure, mais tu aurais mieux fait de pas se lever ce jour-là. Sauf que c'est révélé, l'incompréhension. Et ça nous rejoint encore avec notre cher camarade Job. Et il fait quoi, Job ? Il entre dans le silence. Et ses quatre copains, qui valent pas mieux les uns que les autres, ils font quoi ? Pendant une semaine, ils restent à distance et ils ne disent rien. Malheureusement, le huitième jour, il y en a un qui a pris la parole. Ils auraient mieux fait de se taire, mais la révélation nous montre que ce n'est pas ce que nous faisons. Donc il y a le silence. Nous restons silencieux devant ça. Pas honteux, nous n'avons pas à avoir honte de ce que notre Dieu n'a pas apparemment agi. Qu'est-ce qui se passe quand on prie ? Il se passe toujours quelque chose, la prière c'est efficace. Sinon Dieu n'existe pas, hein. Il n'y a pas de schéma vel, là, hein. C'est binaire. La prière est efficace, mais elle n'a pas obtenu l'efficacité visible que nous attendions, que nous espérons, que nous voulons, que nous avons demandé. Ok, ça c'est audible. Ensuite, ne cherchons pas à expliquer aux gens qui souffrent qu'on est désolé, mais que c'est mieux comme ça. Hein. Ça, on ne le fait pas. Parce que c'est pas vrai. Dieu est désolé. Mais oui, mais alors pourquoi il fait rien ? Eh bien, ça me dépasse. Enfin, vous, je ne sais pas, vous avez peut-être la réponse. Ça me dépasse, sauf que je pense qu'on peut donner un petit éclairage qui ne résout évidemment pas ce problème du mal. Hein. On est bien d'accord. Moi, je pense que dans ce passage où nous disons à Jésus mais interviens, donne-leur ce qu'ils veulent, Jésus nous répond donnez-leur vous-même ce qu'ils demandent. Et là, on se trouve dans la situation des apôtres devant les 5000 personnes. Là, tu es gentil, on a deux pains, trois poissons, on fait quoi ? Et là, on dit à Jésus, mais attends, voilà. Alors, il y a deux choses. La première, c'est une autre prière. Une autre prière. Saint Irénée dit que les catéchumènes remontant du baptistère au signe de la croix opéraient des guérisons. Saint Irénée, docteur de l'Église, deuxième siècle. Les baptisés remontant du baptistère faisait une croix. C'est arrivé à l'époque aussi de Saint-Augustin. Hein, une femme qui a été guérie d'un cancer par un signe de croix d'une femme remontée du baptistère. À l'époque, c'était immersion totale. Est-ce que nous croyons que nous avons ce pouvoir d'enfant de Dieu de faire des miracles ? Oui ou non ? En tout cas, nous l'avons. Alors, je mettrai en référence un ouvrage de Mary Healy qui s'appelle « Guérir ». Qui évoque ces questions-là, qui sont extrêmement intéressantes. Ça a été abandonné dans l'Église, c'est revenu un peu avec un côté charismatique, parfois pas très bien cadré. Aujourd'hui, il y a des choses tout à fait claires et sérieuses qui sont proposées. La prière est toujours exaucée, hein, mais ça peut être immédiat, plus tard, ou à la résurrection. Bon, maintenant revenons à notre cas de prière qui n'est pas exaucée, qui est scandaleuse. Donnez-leur vous-même ce qu'ils demandent. Donc la prière et l'autre chose, eh bien, c'est d'être les bras de Dieu pour ces gens qui souffrent, d'être présent la plupart du temps dans le silence, mais d'être là. Et nous ne savons pas ce qui se passe. Il faut faire confiance à Dieu. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas la réponse. C'est humiliant. Voilà. Pourtant, nous savons que Dieu est tout puissant, mais pourquoi là, il n'a pas agi ? Donc voilà, je vous invite simplement à méditer cette parole que Jésus nous dit auprès de ceux qui sont dans la souffrance. Donnez-leur vous-même le soulagement. Et aujourd'hui, nous fêtons Maximilien Kolb. Est-ce que ce n'est pas justement la réponse, l'illustration de ce que je propose ? Il s'est donné à la place. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Alors on ne peut pas toujours se donner à la place, hein, mais être présent de la même manière que ce grand saint l'a été pour les autres. Amen.